France Inter, le 18-20, édition spéciale en direct de Maastricht.
Et bienvenue, en effet, bienvenue aux Pays-Bas, bienvenue à Maastricht pour ce voyage à travers l'Europe du Nord que nous allons faire ensemble pendant 2 heures. Une Europe qui a voté ici même hier, on verra comment. Une Europe de plein emploi aussi, mais est-ce que tout cela a réellement un prix? Une Europe verte également, on le verra ensemble. Comment on vit ici? Comment on a voté surtout après les élections? On essaiera de voir tout ça ensemble, d'aller faire un tour chez les voisins, de revenir, de se comparer aussi. On est parti.
France Inter, Fabienne Sintès, Un jour dans le monde, spéciale élection européenne.
Maastricht.
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 Mais toi, tu dis comment?
Maastricht.
Ah non, moi je dis Maastricht.
Bah, on dit Maastricht.
Maastricht. Ouais, bah, je ne sais plus pour finir.
Voilà, bah nous non plus, on sait pas trop en fait. Y a-t-il meilleure introduction de cette affaire de prononciation qu'on va régler une bonne fois pour toutes, comme ça ce sera fait. On se souvient de nous, ça fait quoi, plus de 20 ans qu'on dit Maastricht et qu'en général on se fait engueuler parce qu'il ne faut pas le dire. C'est une bonne manière aussi d'introduire nos invités qui vont nous aider à trancher. Bonsoir Thijs Berman.
Bonsoir.
Alors
Maastricht.
Ah oh bah oui, mais alors ça va être beaucoup
mais
plus
compliqué. Je suis du Nord.
Oui, ah bah alors voilà. Mais
ici, on dirait plutôt Maastricht.
Eh ben, on va essayer de se tenir à ça. Vous êtes ancien député européen, vous l'avez été de 2004 à 2014. Aujourd'hui, vous avez quitté la politique, vous nous expliquerez peut-être pourquoi. Et bonsoir Tanguy Le Breton.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous dites, vous?
Maastricht.
Ah bah voilà, merci beaucoup, vous êtes le bienvenu. Votre nom trahit vos origines, Tanguy Le Breton, mais vous vivez ici depuis 15 ans, vous êtes conseiller interculturel pour les Pays-Bas et vous avez un blog qui s'appelle Grand Angle Pays-Bas. Alors pourquoi on est là pour cette deuxième grande émission spéciale, notre tour des 27 pays avant les élections? Bah, rien qu'avec le nom, on sait pourquoi on est là, parce qu'on est vraiment dans cette ville symbole, évidemment, on va y venir. Je voudrais quand même, avant, décrire pour ceux qui nous écoutent l'endroit où nous sommes, parce que je ne sais pas si on a déjà été dans le 18-20 dans un endroit aussi formidablement majestueux. Nous sommes dans la première église gothique des Pays-Bas qui a été construite en 1260, qui a été transformée en librairie. Donc au-dessus de nous, je peux pas trop lever la tête parce qu'on m'entend plus dans le micro, mais il y a une sacrée hauteur sous plafond, je peux vous le dire, avec des fresques qu'on voit encore. Et puis évidemment, on est entouré de livres. Je voudrais vraiment qu'on remercie très très chaleureusement Tom Hermès qui nous accueille ici et qui raconte d'ailleurs si bien sa librairie. Pour l'anecdote, vous savez, ici, il y a eu des dominicains, mais il y a même eu une guillotine qui n'a jamais servi. Mais enfin voilà, je vous le dis, ça vous mettra en joie. Il y a eu des échelles de pompiers, il y a eu un hôpital, il y a eu un abattoir, maintenant il y a une librairie, voilà, un endroit absolument magique. Pour démarrer cette émission, un endroit que tout le monde connaît d'ailleurs, Thijs, j'imagine, aux Pays-Bas, non, cette librairie gothique, église.
Il est célèbre, elle est célèbre, la librairie bien sûr, dominicaine. Mais il y en a un autre de tribune, enfin, il y a deux grandes librairies à Maastricht.
Oui. Et celle-là, en tout cas, dans une église, est exceptionnelle. Allez, je voudrais qu'on commence directement dans l'actualité du jour. Dieu sait qu'il y a une actualité en ce moment aux Pays-Bas. Ça commence avec ce monsieur.
Niet lang meer. Als de bevolking zich keert tegen de algehele capitulatie van onze bestuurders, als de mensen in dit land protesteren.
Thijs Berman, est-ce que vous pouvez nous dire qui on écoute hein, et nous décrire un peu qui est ce personnage qui devient très important?
Nous écoutons Thierry Baudet, leader du Forum pour la démocratie, qui dit nos dirigeants ont capitulé et ne défendent plus notre population néerlandaise.
Qui vient, j'allais dire de gagner, non, mais qui devient la deuxième force du pays après les élections provinciales qui ont lieu hier. Est-ce qu'on dit ici, donc qualifié de populiste, vous allez nous dire comment vous le qualifiez vous ici aux Pays-Bas, est-ce qu'on dit qu'il y a eu un séisme dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans
oui,
ce pays ou pas?
Il a fait un raz-de-marée incroyable aux Pays-Bas hier soir. Il est devenu au Sénat hollandais le plus grand parti, avec 13 sièges sur 75, et le parti du Premier ministre, les libéraux, le VVD, en 12. Donc c'est une lourde défaite pour la coalition au pouvoir, et c'est une entrée en fracas avec de nouveaux partis qui étaient déjà au Parlement avec 2 sièges sur 150, mais qui est donc maintenant une force, tout le monde doit tenir compte.
Et Tanguy Le Breton, une force extrêmement nouvelle, en plus, au fond, ce parti-là.
Oui, relativement nouvelle, et surtout qui prend finalement des voix à l'autre leader populiste, Geert Wilders. Donc je crois que c'est un jour, effectivement, qui marquera l'histoire moderne des Pays-Bas, un changement important à la politique néerlandaise, qui aura des conséquences D'abord avec un changement de majorité au Sénat. Mm-hmm. Donc ça, c'est à court terme, puisqu'en fait, le Sénat sera élu par ceux qu'on a élus hier. En fait, c'est des élections provinciales hier soir, ah ouais. hier, en fait, hein, qui, comme en France, sont des électeurs donc indirects des sénateurs, qui seront élus en mai, et donc qui va changer la majorité au Sénat. Donc ça va poser des questions, effectivement, au gouvernement actuel.
Une force populiste, donc, mais vous l'avez cité tout à l'heure, Geert Wilders, donc qu'on connaît un peu, nous, en France, qui était le symbole pour nous de l'extrême droite. Est-ce que ça veut oui. dire quoi? Qu'il y a une espèce de populisme meilleur teint que celui de Geert Wilders,
ça, en fait, est-ce que c'est... s'exprime de façon plus agressive. Et Thierry Baudet a l'avantage de parler un peu le latin, de citer des écrivains. Hier soir, il a cité Hegel dans son discours de victoire. Et, mais tout de même, c'est le même discours. C'est un discours anti-establishment, anti-gouvernement, anti-Europe. Parti modéré, extrêmement anti-Europe. Il veut en sortir, le Nexit, la sortie des Pays-Bas.
Alors on y reviendra, parce qu'il paraît
qu'il anti-politique de climat. Il dit tout ça, c'est... C'est une illusion de devoir lutter contre le changement de climat.
On y reviendra l'une après l'autre. Un dernier mot avant d'écouter un reportage autour de ce sujet. Tanguy Le Breton, on a quand même le sentiment que ce fameux Nexit, on l'a un petit peu laissé de côté quand on voit que le Brexit est si compliqué. On a un peu mis le Nexit sous le boisseau ici, non ?
C'est vrai, mais tout ce qu'on voit depuis hier, effectivement, c'est, on revoit apparaître ce qui s'est passé il y a environ 15-17 ans avec donc Pim Fortuyn, qui était en fait un épisode assez impressionnant aussi, où une personnalité s'impose en très peu de temps, comme ça a été le cas effectivement hier. Donc cette question centrale, effectivement, de cette défiance par rapport à l'Europe va se poser, parce que maintenant il a un poids très important dans les prochaines semaines, et on peut imaginer qu'aux élections européennes de mai, il va se passer aussi quelque chose.
Il y a quelques jours, Angélique Bouin, allez-y, Thaïs, pardon.
Ensemble, Wilders et Thierry Baudet font environ 21-22% de l'électorat aujourd'hui.
Mais ça veut dire que l'un a écrasé l'autre désormais, a mangé l'autre ou pas ?
A mangé l'autre, il a aussi mangé un peu de l'extrême-gauche et des libéraux de Mark Rutte, ça c'est clair.
Quelques jours, Angélique Bouin a assisté justement à l'un des derniers meetings de cette formation juste avant ces élections d'hier, et voici ce qu'elle a vu et entendu.
Nederland moet weer zelf kunnen beslissen wie wel en niet toegelaten worden in ons land. FVD wil immigranten die iets komen brengen.
À l'image des immigrés en guenilles devant un centre social, nous devons choisir nous-mêmes ce que l'on veut accueillir, explique une voix off, comme le font les Australiens, avec un système de points selon leurs compétences. Dans la salle, quelques 500 personnes venues de toute la région. Sur scène, une poignée de candidats du parti déroulent leur programme. Thierry Baudet, leur leader, n'a pas pu venir. Retenu par un débat, il s'adresse à la salle via une vidéo. Autre axe de son discours, la lutte contre le réchauffement climatique qui coûte beaucoup trop cher à l'État et aux citoyens. Il faut préserver notre pouvoir d'achat, dit-il.
Après ce débat, je dois parler de la politique environnementale qui est maintenant devenue capitale avant les élections. Il est extrêmement important pour le pouvoir d'achat de tous aux Pays-Bas que nous l'améliorons fortement et que nous gardions ce fortin.
Joël est un jeune entrepreneur et chef de famille de 31 ans. C'est son premier meeting politique. Il votera Forum pour la démocratie car il y a trop d'immigrés, dit-il, et trop de normes climatiques.
It's cost too much money.
Cela coûte trop cher. Je suis directement concerné puisque je construis ma nouvelle maison en ce moment et je paye très cher pour la mettre aux normes écologiques. Cela doit changer. Et puis, il y a l'invasion migratoire. La Hollande est un petit pays. On ne peut pas accueillir tout le monde. Et cela se voit trop que les rues ont changé dans les grandes villes. Et même si je suis moi-même un peu coloré, eh bien j'ai peur, oui.
I have a little bit of color, but I'm still a little bit scared. Yeah.
Je suis Isabelle et j'ai 18 ans.
Annette,
je suis sa maman.
Annette, elle est venue avec sa fille, Isabelle, 18 ans. Elles aussi veulent du changement.
Beaucoup de décisions sont prises à Bruxelles et il y a tellement de sujets, l'immigration. Et pour les familles, la vie est devenue beaucoup plus difficile. Avant, on pouvait vivre de nos salaires, maintenant ce n'est plus possible. Oui, je suis d'accord. Dernièrement, ils ont décidé d'augmenter la TVA dans notre pays et la vie ici est plus dure. Pour les étudiants, par exemple, ils ont coupé les bourses d'études et maintenant on doit tout payer nous-mêmes. C'est un vrai problème.
Je pense que c'est un problème.
22h, la soirée s'achève. Matthias von Mittenburg est un eurodéputé centriste de la région du Parti démocrate 66, membre de la coalition au pouvoir. Il nous reçoit le lendemain matin dans son pavillon. Pour lui, le succès du FVD doit beaucoup à la popularité de Thierry Baudet, un homme qui joue sur le culte de la personnalité. Comme beaucoup de populistes, dit-il, il raconte n'importe quoi, mais ça passe.
Quand on prend l'exemple du changement climatique, il nie qu'il y a ce problème. Après, on dit que ça va coûter très cher. Thierry Baudet, qui est le leader, a même dit à un moment donné que ça coûte 1000 milliards d'euros les années à venir aux Néerlandais. Or, ce chiffre est complètement erroné. Mais finalement, il peut débiter ce sort de connerie, si je peux me permettre. Et souvent, c'est pas contredit. Mais les gens, apparemment, ont envie de croire qu'il y a énormément de problèmes. Aujourd'hui, je ne pense pas que les quelques milliers d'immigrés qu'on reçoit tous les années ont vraiment un effet sur la santé publique ou sur le système de logement social. Certes, il y a des défis à relever, entre autres de créer plus de logements sociaux, mais on y travaille. On peut maintenant travailler à des réponses, tout simplement parce qu'économiquement, la situation aux Pays-Bas s'améliore très très vite.
Merci Angélique Bouin pour ce reportage. Thijs Berman, immigration. On l'a entendu beaucoup dans ce sujet. Oui. Quelle est la part de ce qui était vraiment effectivement ce sur quoi ce parti arrivait à surfer et la part de l'attentat d'Utrecht qui a à peine 3 jours? Est-ce que ça a galvanisé ces troupes-là selon vous, ou de toute façon le résultat aurait été le même?
Selon les sondages qu'on a fait, l'attentat ou la tuerie à Utrecht a eu peu d'influence sur les électeurs. Ceci dit, Thierry Baudet a beaucoup de succès parce qu'il dit de façon assez polie que la civilisation, ce qu'il dit, la civilisation blanche est dans son crépuscule.
Oh bah, il ne le dit pas très poliment, il dit nous sommes les vainqueurs au milieu des ruines d'une belle civilisation, donc il y va franchement.
Oui, mais il n'insulte personne directement. Mais c'est un. Mais il casse les tabous qui ont existé depuis longtemps, mais qui ont été battus en brèche d'abord par Pim Fortuyn en 2002 et après par Geert Wilders. Il continue encore, et son électorat en partie, non seulement anti-immigration, anti-européen, anti-gouvernement, mais aussi quand même carrément raciste aussi parfois.
Tanguy Le Breton, on le compare parfois à certains égards, plutôt si on va vers l'Italie par exemple, à un mouvement 5 étoiles, est-ce que ça vous paraît juste? Est-ce que c'est dans ces directions-là qu'il faut regarder si on cherche la comparaison avec quelque chose qui nous est plus proche géographiquement?
Je ne pense pas. Je faisais le parallèle avec Pim Fortuyn, qui était un universitaire. Donc lui aussi apparaît comme un intellectuel.
On va rappeler qu'il est mort assassiné. Ça a été un moment extrêmement marquant et marqueur dans l'histoire des Pays-Bas, Pim Fortuyn.
Voilà, donc il jouit quand même d'une certaine de garantie de notoriété par son côté un peu intellectuel, universitaire. Donc ça, c'est un point. L'autre point, quand on regarde aussi les électeurs Thierry Baudet, ce sont des électeurs de périphérie, soit les périphéries par rapport à Amsterdam, soit la périphérie par rapport au centre de gravité économique des Pays-Bas, donc le Nord-Brabant par le Sud. Donc je pense que les raisons sont un peu différentes, mais on voit bien que les électeurs de Thierry Baudet et de Geert Wilders ensemble font de l'ordre de 20%, dans ce qui est peut-être plus effectivement des élections législatives aux Pays-Bas de 2017, mais c'est encore moins finalement que ce qu'on peut voir en France.
On est dans une zone là, en fait, d'ailleurs, non? On n'est pas dans une zone où il a été très fort, particulièrement fort, ici, à Maastricht.
Mais son parti a fait un score monstre dans toutes les régions des Pays-Bas hier soir. Il est aux alentours de 14%. Bon, ceci dit, 79% des Néerlandais n'ont pas voté à un parti, au parti de Geert Wilders ou bien de Thierry Baudet. Il faut relativiser aussi un tout petit peu quand même.
Est-ce que c'est une alerte et une alarme pour vous avant les élections européennes au 26 mai? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui sonne et qui sonne aussi, j'imagine, dans la tête de Mark Rutte ici ou pas?
Pour moi,
à la tête de sa coalition.
Ancien politique que je suis, je trouve que quand des partis comme ça trouvent leur essor, ce n'est pas eux qu'il faut vilipender. Il faut regarder dans le miroir. Il faut que les partis modérés, les social-démocrates, chrétiens-démocrates, libéraux, qui se regardent dans le miroir. Qu'est-ce que nous ont fait pour perdre nos électeurs? Et là, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Alors, l'arrogance du pouvoir, la distance avec les électeurs, l'impossibilité de faire un vrai dialogue, de faire une vraie participation des électeurs, qui ne sont plus comme il y a 50 ans, plutôt incapables d'accepter le paternalisme politique. C'est fini, ça. C'est fini. Mais les politiques ne l'ont pas compris encore, ni en France, ni chez moi, aux Pays-Bas. Et on est toujours toujours au pays, dans la politique locale, ça va. On a les électeurs à côté de soi, donc on a le contact direct. Au niveau national et européen encore plus, c'est un grave problème. Et là, les partis populistes en profitent. À juste titre.
Alors, vous pourriez dire ce que vous venez de dire en France et vous ne seriez pas dépaysé quand on entend ce que vous venez de dire. Tanguy Le Breton, il y a autre chose, parce qu'on y viendra au cours de cette émission, qui m'a frappé dans ce qu'on a entendu dans ce reportage, c'est le climato-scepticisme. Un climato-scepticisme extrêmement fort. En fait, dans un pays, on ira en Suède tout à l'heure, on verra que travailler pour le climat, c'est quelque chose, mais ici aussi, théoriquement, vous avez une vraie conscience aux Pays-Bas, une vraie conscience écolo. Le climato-scepticisme, selon vous, c'est quoi? On en a trop fait, on a été trop loin, on a poussé le bouchon, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait ce sentiment-là?
C'est surtout, on l'a vu au moment des élections, justement, d'hier, il y a un aspect aussi financier qui commence à toucher les gens au porte-monnaie, donc c'est là où ça commence à faire mal.
Donc ce qu'on appelle, nous, l'écologie punitive, c'est ça? En gros, c'est comme ça que vous le...
Oui, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, il y avait un débat sur, justement, qui doit payer taxe carbone, est-ce que ce sont les particuliers? Il y a eu justement aux Pays-Bas des mesures qui visaient et qui visent donc à augmenter la facture énergétique pour chaque foyer de plusieurs centaines d'euros. Je crois qu'on parle de 300 euros par foyer. Mais il y a aussi un débat qui a eu lieu aussi, mais est-ce qu'on peut aussi faire payer les entreprises? Donc cette question, elle est là. Mais le climat-scepticisme, je ne pense pas qu'il soit généralisé. Il est effectivement mis en avant par certains leaders politiques, on en a parlé, mais d'autres, au contraire, sont plutôt assez volontaires et font énormément d'efforts. La coalition actuellement au gouvernement a fait un certain nombre de choses assez importantes. Les Verts, les écologistes qui ont aussi gagné les élections, enfin une bonne partie, qui ont vraiment amélioré leur score hier,
absolument,
seront probablement un partenaire.
On y reviendra, mais fois de 4 à 8.
Voilà, donc ils vont être un partenaire pour travailler sur ces questions-là avec le gouvernement.
Vu d'en haut, les Pays-Bas sont très verts, parlait.
Ouais. Mais vu d'en bas, il y a des
papiers
par terre.
La politique ne l'est pas du tout. On est très en arrière dans les mesures qu'il faut prendre. Et je vous rappelle que c'est peut-être cher de prendre des mesures aujourd'hui. Ce sera encore 1000 fois plus cher dans un siècle où deux tiers des Pays-Bas seront sous l'eau.
On y reviendra. Oui, alors oui, le pays le plus inondable, on va vous appeler On y reviendra, ensemble au cours de cette émission. Je me tourne vers vous, Isabelle Labéry. Bonsoir.
Bonsoir, Fabienne.
Vous avez accompagné sous ces magnifiques voûtes gothiques. J'aimerais bien ensemble qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on donne une espèce de fiche technique et de carte postale de ce pays, les Pays-Bas dans lequel nous sommes, parce qu'on a appuyé là sur des choses qui font mal, effectivement. On a appuyé sur donc un problème vraisemblablement de migrants, on a appuyé sur ce qui rend les gens parfois en colère. Mais quand on regarde les chiffres, mais ça a l'air de se passer plutôt pas mal ici, non?
Ben oui, écoutez, si on regarde l'ensemble des 28 pays membres, les Néerlandais sont ceux qui reçoivent le moins d'argent de Bruxelles. Et ça, ben oui, c'est un signe de bonne santé économique. Retenez un chiffre, Fabienne, un seul.
Allez.
16 euros par an et par personne sur la période qui s'achève, c'est-à-dire 2014-2020. 16 euros versés par les fonds structurels européens. En France, c'est presque 4 fois plus. Et la particularité des Pays-Bas, c'est que ces fonds financent majoritairement la recherche et le développement. C'est un secteur qui capte 40% de l'enveloppe globale. Et je vais vous donner un exemple local, puisque c'est notamment grâce à ces aides que l'université de Maastricht, ici, a créé le premier hamburger artificiel. Je ne me risque pas à bien prononcer. C'était une innovation mondiale en 2013. 142 grammes, 250 000 euros la pièce. Un burger créé in vitro à partir de cellules souches de vaches.
Alors, dites-moi, au-delà des cellules souches de vaches, donc, et à l'inverse, qu'est-ce qu'ils apportent, les Pays-Bas, au budget européen?
Alors, ils reçoivent chaque année un peu plus de 2 milliards d'euros, mais ils en versent plus de 3 au pot commun, donc comme la Suède, comme l'Autriche ou comme la France. En fait, ce sont ce qu'on appelle des contributeurs nets qui donnent plus d'argent qu'ils ne reçoivent.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'ils n'ont pas trop envie de donner plus, c'est ça l'idée?
Mais non, et c'est ce qui fait débat, en réalité, parce que pour la prochaine période, 2021-2027, ils aimeraient bien arrêter les frais, parce que si le Brexit a lieu, on ne sait pas encore, mais enfin, s'il a lieu, il va falloir compenser à peu près 10 à 12 milliards d'euros qui vont manquer au budget chaque année. Et ici, vos invités ne vont pas me démentir, je pense, c'est une orthodoxie. Il n'est pas question d'apporter un euro de plus au budget européen. Et ce que les Pays-Bas proposent de faire, c'est soit de redéployer les fonds, soit aussi de diminuer la part consacrée à la politique agricole commune qui pèse très lourd, presque 40% du budget de l'Union. Et cette part, personne n'y a jamais touché. La France, qui est le premier bénéficiaire de la PAC, évidemment, est vent debout contre ce scénario. Mais les Pays-Bas, eux, demandent plus d'efficacité à leurs partenaires, plus de discipline. Et si aujourd'hui les performances économiques de ce pays sont excellentes, remarquables, avec une croissance à plus de 3%, quasiment le plein emploi, eh bien c'est parce que eux, ils ont joué le jeu et fait de grosses réformes.
Et donc ils veulent pas être les seuls à jouer le jeu. En gros, c'est ça le message.
C'est ça. C'est pour ça qu'ils demandent un respect très strict des règles de la zone euro et qu'ils ne veulent surtout pas du budget commun qui est réclamé par la France. Pas de question de payer la note tête des pays du Club Med qui dilapideraient l'argent public. En gros, que chacun fasse le ménage chez soi avant de faire appel à la solidarité européenne. Et d'ailleurs, avec 7 autres pays d'Europe du Nord, ils ont fondé l'an dernier la Ligue Hanséatique. C'est un groupe informel qui porte ses idées de façon assez explicite, voire offensive face au couple franco-allemand. D'ailleurs, ça crispe un petit peu Paris et Berlin.
Allez, Isabelle, vous reviendrez évidemment pour nous donner comme ça des cartes postales et des fiches quand même. Thijs Spermann, 3,7% de chômage. Mm-hmm. Après la crise de 2008, il y a eu replongée en 2009 et malgré tout, vous en êtes là, quoi. Est-ce qu'il y a une sorte de miracle néerlandais? On dit ça comme ça ou pas?
On a diminué les coûts, on a coupé les budgets de façon drastique et dure. Donc on a pris des mesures, on a serré la ceinture et ça a marché. On a mis plus de flexibilité aussi sur le marché du travail. Oui, ça attire beaucoup d'investisseurs et des entreprises. Ils viennent aussi de Londres, ils s'établissent à Amsterdam. Et c'est de plus en plus un pays de services. Évidemment, l'agriculture reste importante, mais c'est un pays de services.
On nous parle beaucoup d'un modèle social néerlandais. Je voudrais qu'on aille voir à quoi ça ressemble exactement, comment on travaille ici. Grâce à Angélique Bois, encore une fois, qui nous emmène cette fois à Rotterdam, nous allons chez Page Group, qui est le leader du recrutement en Europe. On va parler recrutement et vous allez voir, c'est très étonnant pour nous Français en tout cas.
On est rentré dans notre salle de travail, c'est une grande salle, c'est un endroit dans lequel environ 90 personnes sont en train de travailler. À côté, il y a une salle de détente pour déjeuner avec une petite cuisine pour prendre un café ou juste parler. Et on voit des gens qui sont au téléphone, on voit des gens qui sont en train de travailler sur leur ordinateur, on voit des gens qui sont dans une salle séparée, peut-être en entretien avec des candidats. Mais on voit aussi des bureaux qui sont disponibles au libre. Et j'imagine que nos collègues qui travaillent là-bas sont soit en visite à l'extérieur ou soit ils sont en train de travailler chez eux.
Il est 10h ce lundi matin et plus d'un bureau sur deux est vide dans l'open space ultra moderne où travaille la centaine de collaborateurs de Joost Fortuyn. Iris est consultante à temps partiel comme une grande majorité de néerlandaises. Elle est ici depuis 11 ans.
C'est super facile en fait. Tu organises ton temps comme tu veux. Je planifie mes rendez-vous avec mes candidats et mes clients et je m'assure que ça colle avec mon emploi du temps personnel. Donc parfois je commence à 8h le matin et je peux partir tôt pour aller à la crèche. Parfois je reste jusqu'à 6 ou 7 heures le soir quand mon conjoint peut y aller. Donc, je suis ravie que ce soit possible dans ce groupe.
Vous êtes dans une tour ronde, donc on tourne.
Oui, on tourne ici, donc au centre, je crois qu'on a tout ce qui est technique et ascenseur. Et autour de ça, on a nos bureaux avec une vue sur la ville de Rotterdam. Donc on est en centre-ville de Rotterdam ici, juste à côté du gare centrale, qui permet aussi aux gens, quand ils sont ici, de sortir vite fait pour soit faire les courses pour le soir, pour dîner, mais aussi peut-être pour acheter un petit cadeau ou pour faire réparer les chaussures. Donc aussi ça, c'est un mélange du vie personnelle et du vie professionnelle.
Un choix assumé et sans conséquence sur la productivité, elle est même meilleure qu'à l'époque où l'on comptait les heures, assure le directeur. Contrat de confiance et une culture du travail d'équipe, voilà sa recette.
Hey, wat heb ik jou gelegen?
Martine est manager dans le groupe depuis plus de 10 ans. Quand on lui demande si c'est cool...
Yeah, you have to ask my wife, if that's true.
Demandez à ma femme si c'est vrai, dit-il en riant. Cette organisation du temps de travail où l'on fait la part belle aux loisirs et à la vie de famille est en fait assez récente dans le pays, explique plus sérieusement ce papa de deux enfants. Elle date, dit-il, de la fin de la crise économique et de l'avènement des nouvelles technologies.
Bon, je pense que cela a changé aussi, et cela pour pouvoir garder les gens chez nous. En particulier dans ce contexte économique où les candidats ont le luxe d'avoir de multiples opportunités de travail, et pour garder les gens, il faut leur offrir de la flexibilité. Et je me souviens qu'il y a 11 ans, on n'avait même pas de BlackBerry. Cela a changé quand on a reçu tous ces outils informatiques et que l'on a pu se connecter de la maison.
Ce qui a changé surtout, nous confirme Joost Fortuyn, c'est le marché de l'emploi.
On pourrait dire qu'il n'y a pas de chômage. Dans le domaine des cadres, c'est l'inverse aujourd'hui. beaucoup de boîtes sont en train de développer de nouvelles initiatives, mais on ne trouve pas assez du talent pour remplir toutes les postes qui sont ouverts.
Alors, quels sont les secteurs qui recrutent et qui viennent frapper à votre porte?
Tous les secteurs. Des banques, le secteur de construction, de services, donc services bancaires, services conseils, voyages. Donc, dans tous ces domaines, le personnel est demandé.
Et les entreprises doivent donc s'adapter, explique Nicolas Béchu, le patron de Page Group pour l'Europe du Nord.
Les gens sont dans cette attente-là, donc la situation qui est celle aux Pays-Bas est d'avoir des entreprises qui doivent s'adapter à cette attente. Donc chacune des entreprises n'impose pas des horaires de travail ou va avoir des difficultés à imposer des horaires de travail comme ça pourrait être le cas en France.
Mais les entreprises s'y retrouvent ?
Au final, elles n'ont pas le choix. Elles doivent avoir de la main-d'œuvre et comme vous le savez, le taux de chômage est très bas, donc il y a une sorte de bataille pour avoir des talents qui puissent les rejoindre. Et je pense que les entreprises vont essayer d'éviter l'inflation des salaires et vont au contraire, à la place, proposer, plutôt que des salaires très élevés, une sorte de confort de vie, un peu moins de stress, une attention au bien-être des collaborateurs au sein de l'entreprise. Alors les petites annonces, c'est quand on a recruté un temps plein qu'on l'indique, parce que par défaut, les gens vont s'attendre à devoir travailler un temps partiel. Je pense qu'il va y avoir peut-être 75% des femmes qui doivent travailler à temps partiel. Leur proposer un temps plein, c'est quelque chose qu'on va devoir négocier, parce que c'est pas forcément la chose attendue.
Mais alors, que font les Néerlandais de leur temps libre? Océane Dorange est mariée à un Néerlandais, c'est une Française. Elle tient un blog.
Je pense que dans la culture, on attend moins de l'État de s'occuper des citoyens. Je pense que chacun prend sa responsabilité. Beaucoup de services sont assurés par du bénévolat. C'est très important dans ce pays. On le voit dans les écoles, par exemple. Je suis maman, j'ai deux enfants, une en primaire, un autre au collège. On demande beaucoup des parents pour les sorties, pour l'animation d'ateliers, pour s'occuper de la bibliothèque. Alors, il y a une bibliothécaire, mais elle est à mi-temps. Donc, elle est aidée aussi par les parents et des fois aussi par les plus grands de l'école.
C'est le cas aussi dans le monde sportif.
Alors dans le monde sportif et en l'occurrence dans tout ce qui est encadrement des enfants, très souvent ce sont des parents qui vont coacher les équipes, bénévolement également.
Océane observe depuis de longues années la société néerlandaise. Ils s'occupent de leur famille, voient beaucoup leurs amis et font énormément de bénévolat, raconte-t-elle, dans le secteur de la santé par exemple ou de l'éducation.
Formidable reportage d'Angélique Bon, moi ça me fascine littéralement Tanguy Le Breton au fond, on entend un luxe du plein emploi en fait, c'est ça que j'entends moi dans ce reportage. Quand j'entends qu'on peut imposer des heures de travail parce qu'on est tellement en quête de salariés, c'est quand même très étonnant. Est-ce qu'on est vraiment dans une photo qui est celle des Pays-Bas aujourd'hui? Est-ce qu'on est un peu là dans un Pays-Bas qui va bien? Un Pays-Bas qui va bien?
Oui, le pays va bien, mais donc ce taux de chômage qui est effectivement en dessous de 4%, voilà, ça veut dire aussi, on l'a bien vu dans le reportage, qu'il y a donc on favorise le temps partiel. Il y a une loi qui a été votée au début des années 2000 pour ça. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ça, c'est aussi un des aspects qui pourrait être intéressant aussi.
46% des 20-64 ans sont en temps partiel. C'est du temps partiel voulu. C'est pas du temps partiel subi, on est d'accord avec ça?
Pas toujours, donc mais on l'espère le plus souvent voulu, donc mais c'est pas toujours le cas. Donc il faut aussi le souligner. En même temps, un chômage très bas, ça veut dire aussi, et que ça a été souligné dans le reportage, que dans beaucoup de secteurs, on manque aussi de ressources, on a du mal à trouver des personnels. Ce qui n'a pas été souligné dans le reportage, c'est dans les aspects, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation. Actuellement, ça devient assez crucial. On manque terriblement en fait d'aides-soignants, on manque terriblement en fait d'enseignants dans le primaire notamment. Donc c'est une vraie question. Et d'ailleurs, c'était une des questions d'ailleurs du débat qui a eu lieu avant-hier, des élections qui ont eu lieu hier.
Et c'est une vraie question. On a entendu Angélique nous raconter par exemple qu'il y avait beaucoup de bénévolat. Mais est-ce que c'est aussi une manière, Thijs Berman, de compenser des services de l'État qui ne sont pas là, quand du coup ce sont donc les gens, les parents, etc., qui doivent faire des choses que dans d'autres pays, en l'occurrence dans le nôtre, en tout cas, l'État prendrait en charge ou pas?
Je pense que les services de l'État sont là, mais les crèches, par exemple, sont très chères. Donc on peut choisir de travailler un peu moins et de s'occuper des enfants de jour. L'autre partenaire du couple travaille aussi quelques jours. Comme ça, on se chevauche. Et c'est comme ça qu'on s'occupe des enfants, c'est parce que ça fait moins cher aussi. Il faut dire que ce temps partiel, c'est aussi quand même dû à un manque d'infrastructures qui permettent, surtout aux femmes, de ne pas prendre le rôle traditionnel d'être dans la cuisine.
Ça veut dire qu'il
n'y a pas.
Mais est-ce qu'on est dans le 50...
Il n'y a pas de repas chaud à l'école.
Est-ce qu'on est dans le 50-50 à la suédoise ou pas, homme-femme par exemple, là-dessus?
Non, je ne pense pas. Ah non, pas du tout. On est à l'égalité avec l'Irlande ou la Grèce. On est très, très mauvais dans ce cas-là.
Tanguy Le Breton, je veux que vous y ajoutiez quelque chose.
Oui, non, le bénévolat joue un rôle très important aux Pays-Bas. Les Néerlandais sont très actifs en tant que bénévoles. Et ça pose parfois effectivement des problèmes dans certains domaines. Mmh. Je l'ai souhaité tout à l'heure, effectivement, le domaine de la santé notamment, où des bénévoles sont régulièrement en fait mis sur des postes quasiment comme des salariés. Mmh. Donc ça aussi, ce sont des questions importante à régler, parce que les personnels souvent aussi sont confrontés à ça. Donc beaucoup de bénévolat dans tous les domaines, une implication des Néerlandais qui sont extrêmement actifs dans tous les secteurs, mais qui peut poser des problèmes parfois dans certaines structures. Ouais.
Et puis alors, autre chose, vous allez m'arrêter si je me trompe, peu de charges patronales, est-ce que les salaires augmentent facilement aussi puisqu'on est dans cette situation de quasi plein emploi ou pas?
Non, c'est pas si facile que ça. Dans l'organisation où je travaille, je vois qu'il y a une grande flexibilité. Il y en a qui ne travaillent pas le mercredi, il y en a qui travaillent chez eux le vendredi. Souvent, mercredi et vendredi, il y a très peu de monde. Et c'est comme ça dans beaucoup d'entreprises, des organisations néerlandaises. Mais les salaires, on ne peut pas demander n'importe quoi quand même. Non, c'est limité.
Alors voilà, et parce qu'on a entendu dans le reportage précédent, celui au meeting de Thierry Baudet, on a entendu des gens dire « Oui, bah, c'est compliqué les fins de mois quand même. » Enfin, je voudrais pas non plus qu'on donne une image... qui serait très bisounours, en fait, de cet endroit où ben, les gens qui vont bien, d'accord, mais puis il y a les autres à côté, non ?
Les études sont beaucoup plus chères qu'en France, par exemple. Donc les étudiants ont du mal, vraiment beaucoup de mal. Ceci dit, c'est le pays le cinquième le plus heureux du monde, enfin, sur la liste du bonheur.
Oui, c'est vrai, il paraît. C'est l'OCDE qui le dit, c'est pas nous, on est beaucoup plus loin derrière, nous autres, les Français. Mais certains pays du Nord, où on ira tout à l'heure, sont peut-être plus heureux que vous. Allez, tiens, pour être heureux, justement, écoutons de la musique, il s'appelle Clarence... il vient d'ici, des Pays-Bas. Du coup, Thaï, si vous le voulez bien, vous allez pouvoir me lire comment s'appelle cette chanson, s'il vous plaît.
Oula, Clarence, Goed doen.
Eh bien voilà, c'est comme ça qu'on dit.
Faire le bien.
Voilà, parfait.
Waar ik wilde zijn. Terug in de tijd met die herinnering in mijn brein. Kom op, wie hou je nou toch voor de gek? Ik zing om tussen vijven en uit geldgebrek. Zingen over liefde, pijn, verdriet en zeer. We zitten al te wachten op die grote terugkeer. Nee, die emoties heb ik zelf niet in de hand. Waardoor ik dan in lastige situaties beland. Wow, yeah, wow. Als je het goed doet zoals het moet, dan weet je wie goed doet, dus goed ontmoet. Wensen en dromen, dat is een mooi streven. Normen en waarden zijn goed voor het heden. Als je het goed doet zoals het moet, dan weet je wie goed doet, dus goed ontmoet. Wensen en dromen, dat is een mooi streven. Normen en waarden zijn goed voor het heden.
France Inter, un jour dans le monde, édition spéciale élection européenne en direct de Maastricht.
Voilà le traité de Maastricht que vous voyez ici, dans toutes les langues européennes et avec des signatures de tous les gens qui étaient là. Très impressionnant, je trouve.
Et c'est vrai que c'est impressionnant, je vais vous dire, c'est même presque émouvant en fait. On y était nous cet après-midi, on a été le voir, c'est facile, hein, vous entrez dans la maison du gouvernement, vous allez le voir, il y a la table, il y a le traité, il y a effectivement les signatures. Moi bêtement j'ai dit, mais enfin c'est quand même très gros, c'est pour ça que personne l'a lu en réalité, c'est parce qu'il est écrit dans plusieurs langues, donc dont acte. Mais c'est vrai que c'est évidemment un marqueur ici. Si on regarde par terre, quand on se promène dans les rues de Maastricht, on voit 1992, ça dit ça aussi, on entend parler d'Europe un peu partout. Qu'est-ce qu'on en dit toujours, Thijs Berman, de ça? On a l'impression finalement que vous êtes un double symbole, en fait, à la fois de cette construction qu'a été le traité et aussi du début de l'euroscepticisme qui, au fond, commence avec ça.
Je ne suis pas sûr que les Pays-Bas sont au tout début de l'euroscepticisme.
Non, mais le traité, je veux dire.
Traité, oui. Entre parenthèses, avez-vous vu le statut, la statue de D'Artagnan aussi?
Pas encore.
Ah ben, il faut y aller.
Oui, oui, bien sûr. Qui est mort à Maastricht.
Il y est.
Oui.
Mais avec le traité de Maastricht, qui était donc fondé sur trois piliers, la coopération économique avec l'avenue plus tard de l'euro, avec la politique étrangère et avec la politique de police et de justice, on n'a jamais amené les électeurs européens dans cette histoire. C'était une affaire des politiques, grand consensus, beaucoup de monde était d'accord, sauf les Britanniques, les Danois, mais jamais... Les électeurs sont venus avec nous. Et c'est ça qu'a fait l'euroscepticisme, à mon avis, cet abandon des électeurs dans cette histoire. Aussi avec l'élargissement en 2004, avec 10 nouveaux pays, ils n'y étaient pas.
Et c'est vrai que c'est peut-être là qu'est le symbole. Donc, du coup, de ce traité, Isabelle Labéry, il y a une chose qu'on pourrait jouer à cette expérience-là. Si on demande aux gens c'est quoi le traité de Maastricht, ils vous répondront c'est 3%.
Ouais, 3%. Je crois que ça, c'est l'aspect le plus connu et le plus critiqué aussi de ce traité. En fait, ça veut dire que les pays de la zone euro doivent contenir leur déficit public en dessous des 3% de leur produit intérieur brut. Et puis il y a un autre critère, c'est celui de la dette, qui elle doit être inférieure à 60% du PIB. En fait, ces seuils ont été fixés de manière complètement arbitraire, mais c'était pour créer le plus d'uniformité possible, pour éviter que certains pays laissent filer leurs dépenses, sauf que sauf qu'en fait tout le monde est sorti du cadre et très vite, hein, l'Allemagne et la France les premières, et depuis 2003 il n'y a pas eu une seule année où l'ensemble des pays de l'Union a respecté la norme des 3%, et ne parlons pas de la dette, un seul exemple, 133% encore aujourd'hui en Italie.
Du coup, est-ce qu'on a modifié les critères, Isabelle?
Oui, dès 2005, en fait, Bruxelles a toléré des dépassements exceptionnels et temporaires en cas de récession, par exemple. 2011, nouvel assouplissement pour éviter d'avoir à déclencher trop vite ou trop souvent les procédures pour déficit excessif. Aujourd'hui, les pays doivent présenter leur budget très en amont à la Commission, mais les sanctions en cas de dérive, en fait, sont quasiment jamais appliquées. Et cette orthodoxie budgétaire n'a jamais cessé d'être remise en cause. On l'a vu avec l'Italie, qui a tenté cette année de faire passer au forceps un budget qui n'était pas du tout dans les clous. Même le Fonds monétaire international juge que les critères de Maastricht ne se justifient qu'avec une croissance d'au moins 5%. Autant vous dire qu'on n'y est pas du tout.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même des choses, on l'évoquait à l'instant, Isabelle, il y a quand même des choses positives dans ce traité.
Oui, on peut rajouter la citoyenneté européenne qui permet de circuler librement. Vous l'avez dit, les prémices d'une politique étrangère et de sécurité commune. En fait, il a surtout fait passer l'Europe d'un ensemble économique à un ensemble politique. Mais on le disait à l'instant, c'est surtout la pédagogie qui a manqué. Ça, c'est le regret de Sophie Vanhoenacker, qui est doyenne ici de la faculté des arts et sciences sociales à Maastricht.
Ce sont des discussions à très haut niveau avec les diplomates, les ministres, les chefs d'État, et on n'a pas suffisamment écouté les soucis des citoyens. C'est pour ça que les populistes ont ce succès, parce que c'est non seulement au moment du traité de Maastricht, mais c'est en fait toutes les années depuis le traité aussi qu'on n'a pas eu cette discussion sur l'intégration européenne.
Il y a des discussions qui vont évidemment reprendre dans le cadre des élections qui arrivent le 26 mai prochain.
Merci beaucoup, Isabelle Labéry. Thijs Berman, je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais est-ce que ce n'est pas l'erreur, j'allais dire, de votre génération d'Européens, ça, en fait? Alors bon, vous étiez élu un peu plus tard, 2004-2014, mais à un moment, c'est votre génération d'Européens qui n'a pas su parler à celle qui vient aujourd'hui et celle qui vote aujourd'hui. On l'a vu hier chez vous.
Oui, sans doute. On a vécu dans l'illusion que... Bon, je rappelais que D'Artagnan est mort ici, à Maastricht, au siège de Maastricht, au XVIIe siècle. Mm-hmm. Un pour tous pour un. On n'y est pas du tout en Europe. On n'est pas une unité. On est dans une diversité totale. Il fallait le respecter. Et il fallait aussi plus respecter qu'on a essayé de faire dans cette convergence économique. Peut-être un peu plus de lenteur. Mais je suis très conservateur quand je dis ça. Mais en tout cas, ce qu'il a manqué, c'est exactement ce que dit Isabelle, c'est la pédagogie, c'est-à-dire... Et pédagogie, c'est un peu trop paternaliste. C'est d'aller vers les petits électeurs. Allez, les enfants, vous allez comprendre plus tard. Et ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Cette politique-là, du plan directeur, elle est finie. Elle est finie avec la venue de l'Europe, en fait. Il fallait faire une politique beaucoup plus ouverte et participative et amener les électeurs dans ce projet. Et c'est à eux de dire jusqu'où ils veulent aller.
Et justement, sauf qu'il y a eu ce passage de 1992. Vous avez été élu en 2004. Après, il y a eu le référendum de 2005 qui est un peu comme une autre salve à l'Europe, disant attention, nous les peuples, peut-être qu'on a une vision différente. Regardez, nous et vous, les Pays-Bas, avez voté contre ce fameux référendum en 2005. Hein.
Oui. J'ai milité dans les deux référendums, dans le Parti Socialiste Français en 2004, novembre 2004, et aux Pays-Bas. Et il y avait cette arrogance du pouvoir des socialistes au Parlement européen où j'étais. Ah, le Parti Socialiste a voté pour le référendum. Vous allez voir. Mm. Et j'ai dit, mais c'est une catastrophe. 47% a voté contre. Ce sera un non massif en France et aux Pays-Bas. Ils n'y ont jamais cru. Ils avaient été totalement déconnectés de la réalité des électeurs qui voulaient marquer que pour eux, l'Europe n'était pas vécue comme une protection et comme un avenir, mais comme une menace et comme la cristallisation de la mondialisation qui les menaçait plutôt qu'autre chose.
Est-ce qu'il peut y avoir ici, aux Pays-Bas, vous êtes un petit pays, pardon, c'est pas du tout une critique, d'une espèce de peur
Le plus grand des pays,
bien sûr. Une espèce de peur d'une dissolution au milieu des autres, en fait. Est-ce que c'est ça qu'on entendait déjà à ce moment-là et qu'on entend encore aujourd'hui?
Oui, mais pas seulement aux Pays-Bas, aussi en France. Et c'est là aussi une des raisons du succès de Thierry Baudet aux Pays-Bas, du populiste, qui dit qu'on est en train de perdre notre civilisation avec l'immigration. Et c'est ça qu'il rappelle. Ce n'est pas ma tasse de thé, comme vous comprenez, mais tout de même, hein, il y a cette inquiétude et cette colère. Il faut la prendre extrêmement au sérieux.
Tanguy Le Breton, vous, avec votre double entrée et votre, j'allais dire, double nationalité, non, pas seulement, mais enfin votre double vie, j'allais dire, entre la France et les Pays-Bas, comment vous le voyez, vous, ça, ce symbole-là, et ce qui l'a amené, probablement, qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui, en Europe?
C'est vrai qu'on a un peu tendance à voir des fois l'Europe de manière un peu négative, mais c'est vrai que moi je suis français, je habite aux Pays-Bas et je peux constater qu'au quotidien il y a des éléments de l'Europe qui me sont favorables, qui sont utiles et qui sont très positifs, il faut les rappeler. Il y a des règlements européens qui sont très intéressants pour les Français qui sont aux Pays-Bas, notamment par exemple pour leur droit à la retraite. Ils ont des droits plus favorables, il y a un calcul qu'on appelle calcul communautaire par rapport au droit à la retraite française qui leur donne des droits plus intéressants. Sur le plan aussi des règlements européens pour la famille, il y a un nouveau règlement qui est rentré en vigueur en janvier qui uniformise un petit peu les questions de droit de la famille. Pareil pour les successions. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de solutions finalement qui sont apportées par des règlements européens qu'on ignore parce que c'est un peu technique, c'est un petit peu trop compliqué. Mais la réalité de l'Europe au quotidien, notamment pour ceux qui sont expatriés de leur pays, hein, par exemple les Français qui sont aux Pays-Bas, c'est quand même très intéressant.
Et on poursuivra évidemment cette discussion. On va la poursuivre en regardant chez les voisins comment ça se passe, si l'herbe y est plus verte ou pas. Nous irons en Estonie, nous irons en Allemagne, nous irons aussi en Suède poursuivre ensemble cette discussion et cette édition spéciale ici à Maastricht dans cette superbe église gothique transformée en librairie. Et à tout à l'heure. Et deuxième heure, oui, de ce 18-20 spécial Europe, toujours en direct de Maastricht, dans cette superbe librairie qui abrite une église gothique. On a beaucoup traversé les Pays-Bas en première heure. On va y rester, hein, puisque nous y sommes. Mais on ira aussi voir chez les voisins comment ça se passe. On a parlé de vote populiste à l'instant. Nous irons donc chercher du côté des Verts allemands si une troisième voie se dessine. Nous serons un peu plus haut aussi en Suède, où la conscience écologique la dépasse pour le coup très largement la nôtre. Et puis je vais vous emmener rapidement aussi en Estonie, où là on a l'œil vers d'autres voisins, ce qui nous permettra, si on a le temps, de parler aussi d'Europe de la Défense. Soyez les bienvenus dans cette deuxième heure.
Fabienne Saint-Fès, 18-20 spécial.
C'était déjà une ville qui a toujours été européenne entre l'influence française, allemande, la Belgique, la Wallonie, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. La ville de Maastricht a commencé un projet avec l'université et la province, Europe Calling. Comment on va dans le futur? Parce qu'il faut changer.
Mais à Maastricht, c'est peut-être le meilleur endroit pour commencer à penser là-dessus.
Voilà, pour commencer à penser, peut-être commencer à penser différemment. La cloche, elle est à deux pas d'ici, sur la petite place pavée qu'on traverse tout simplement pour venir jusqu'ici. Puis l'homme qui parlait à l'instant, c'est Tom Hermès qui nous accueille dans sa librairie magique et gothique. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, Thijs Berman, vous êtes resté avec nous, vous êtes ancien député européen. Vous l'avez été de 2004 à 2014, Tanguy Le Breton, vous êtes resté également. Vous vivez ici depuis 15 ans, vous êtes conseiller interculturel et vous animez un blog qui s'appelle Grand Angle Pays-Bas. Juste, je voudrais qu'on termine avec ça pour boucler la boucle avec ce que nous disions tout à l'heure avant le journal. Il y a peut-être quelque chose à réinventer. Je trouve ça plutôt joli, Thijs Berman, ce que dit Tom Hermès. Peut-être qu'il faut le réinventer d'ici, après tout, puisqu'on est aussi dans une forme de commencement quand on est à Maastricht.
Oui, et Maastricht, c'est quand même la ville la plus au sud des Pays-Bas. Et une ville au sud d'un pays est encore beaucoup plus au sud que la ville la plus au nord de l'autre pays qui est juste au sud. C'est Liège, est beaucoup plus
c'est
nordique.
C'est pour ça que votre fille est muette, comme dirait Molière, mais je vous en prie.
Pardon ?
Non, je vous en prie, allez-y.
Il y a à Maastricht, évidemment, c'est vrai, ce mélange de culture et de langue. L'Allemagne est tout près, la Belgique, les Pays-Bas. Et c'est une ville européenne par excellence, comme Strasbourg d'ailleurs aussi. Il y en a d'autres comme ça, hein, Venise aussi.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Tanguy Le Breton, de vivre effectivement là, dans un vrai morceau d'Europe, quoi? Et c'est aussi ça que symbolise l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous y sommes.
Oui, parce que les Pays-Bas sont profondément européens. Ils partagent des valeurs européennes comme la France. Donc oui, on a le sentiment d'être au cœur de l'Europe, mais aussi parce qu'ils ont un optimisme à toute épreuve. Ils sont très positifs. Donc quand il y a des difficultés, ça ne les décourage pas. Il l'a même dit.
Plus que nous, vous dites. C'est ça que vous dites aussi.
Plus que nous. Je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour aller jusqu'à demain? Donc comment est-ce qu'on prépare l'avenir? Donc non, je suis très très heureux d'être ici et je suis confiant aussi comme un sur l'avenir, malgré les difficultés.
Mais ce qu'on voit, non pas seulement à Maastricht, mais on le voit partout. On le voit dans ma chère ville de Morlaix, en Bretagne, mais aussi à Paris.
Décidément, il y a une mafia bretonne.
Une mafia bretonne
à Maastricht.
Mais on voit l'essence de l'Europe, c'est cette extraordinaire diversité des villes et des paysages. En France, on le voit évidemment de façon extrême entre Brest et Gex, tant de différences. Et c'est ça l'Europe, c'est pas une ville. C'est cette diversité entre les paysages, entre les cultures qui sont faites par ces paysages et ces villes.
Et c'est aussi celle 18-20 justement, c'est de se promener d'un pays à l'autre et d'un endroit à l'autre. On a évoqué tout à l'heure la poussée populiste lorsqu'on parlait des élections qui ont lieu hier aux Pays-Bas. Je voudrais vous emmener du côté de l'Allemagne parce que on a un peu l'impression, c'est ce qu'on a beaucoup dit, que les Allemands étaient peut-être en train de montrer électoralement une troisième voie entre leur extrême droite aussi, leur AfD, et puis la coalition au pouvoir, une troisième voie qui était verte. On va voir ce qu'il en est réellement, comment ils le vivent eux et comment ils le sentent. Le reportage est signé Ludovic Piétenu et on en discutera ensemble. On verra si on peut faire des comparaisons avec ce que nous vivons ici.
Conférence de presse à Berlin des deux têtes de liste écologistes. Une femme, Ska Keller, 37 ans. Un homme, Sven Giegold, 49 ans. Et il y a du monde, les flashs des photographes crépitent. Des deux candidats, celui qui vient spontanément au micro France Inter, il a vécu un an à Paris.
Oui, je peux m'exprimer en français.
C'est Sven Giegold.
Vous sentez là comme une sorte d'énergie un peu nouvelle quand on entend ces photographes et toute cette presse? Ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Vous avez toujours suscité beaucoup d'intérêt, les Verts allemands?
Non, c'est partout en Europe, on a une vague verte assez forte en Allemagne, mais aussi dans beaucoup d'autres pays en Europe. Pourquoi? Il y a une crise climatique et en même temps, il y a une vraie menace des adversaires de l'Europe. Et nous, en tant que parti fortement pro-européen et pour la transformation écologique et sociale de notre économie, nous sommes dans une période forte.
Vous y croyez, vous, à tous ces sondages?
En fait, c'est assez simple. La grande majorité des Allemands est pro-européen. Même si nous ne sommes pas d'accord avec la politique écologique, sociale de M. Macron, en Allemagne, beaucoup des électeurs sont très déçus de notre grande coalition. Notre chancelière, mais aussi les social-démocrates, n'ont pas fait une réponse forte vers ces idées de Macron. Et c'est pourquoi ce sont les Verts en Allemagne qui ont défendu l'idée de faire des réformes fortes en Europe, démocratique, sociale, écologique. Et c'est pourquoi nous sommes aussi forts dans les sondages pour les Européens.
L'ambiance fin de règne de la chancelière Angela Merkel jouerait donc en faveur des Verts. Il est vrai qu'en ce moment, en Europe, l'Allemagne tourne politiquement au ralenti. Elle est un peu la belle endormie. Et la part la plus centriste de l'électorat conservateur se détourne et n'a plus aucun problème à voter pour les écologistes. Cela a pu se vérifier lors de deux élections régionales au mois d'octobre dans deux Länder, en Bavière et en Hesse. Et au-delà de l'électorat conservateur, dans ces deux scrutins, les Verts ont pris des voix à tous les autres partis. Rendez-vous est pris lundi soir dernier à Berlin, une réunion autour des droits des femmes à laquelle a été conviée Franziska Brandner, très engagée sur cette question au Bundestag. Cette députée du Bade-Württemberg, région frontalière avec l'Alsace, que les Verts ont conquise juste après l'accident de Fukushima il y a 8 ans. Franziska Brandner a aussi été députée européenne en 2009 pour un mandat. Elle est à nouveau candidate aujourd'hui.
Vous connaissez Madame Brandner?
Un petit peu, j'ai vu des fois. Je suis aussi chez les Verts.
Pourquoi ça marche les Verts en ce moment? Vous êtes une militante et vous êtes une élue, Madame Brandner.
En lutte.
Vous luttez?
Bien sûr, les élections, bien sûr.
Parce qu'on est de bonne humeur. On aussi, en plus, on se bat, on a de bonnes idées et on est optimiste sur le futur.
En fait, quand on regarde un peu la chronologie en Allemagne des Verts, vous avez petit à petit rattrapé, vous dites.
Oui, un peu l'écart.
Avec les grands partis.
C'est ça.
En Allemagne, on appelle ça un Volkspartei, c'est ça?
Oui. Vous savez ce que ça veut dire en anglais? Catch all party. On ne veut pas être ça. Non.
Le parti attrape tout.
Ça, on ne veut pas être, non.
Pourquoi?
Parce qu'on a quand même notre vision et notre position qui reste fort. On a quand même l'ambition de convaincre de plus en plus de personnes et de rallier et de faire un rassemblement pour une transition écologique et sociale de la société. On sait qu'il faut changer le mode de vie actuel. On ne peut pas le transmettre aux générations futures, ça serait impossible. Du coup, là, on est très sûr, on est convaincu, mais on essaie de rattraper, de convaincre, de rassembler.
Les jeunes. Pour qu'ils ne vont pas aux gilets jaunes qui, avec les partis populistes, il y a chez nous aussi.
Il faut vraiment se battre.
Votre parti, il a changé aussi, il a changé de direction depuis un an. C'est les réalistes au pouvoir.
Non, même pas. Pas du tout. Ils sont dans leur positionnement. Les deux chefs sont beaucoup plus à gauche que ceux qui étaient là avant.
Plus moderne,
plus jeune, plus moderne. Je sais pas. C'est sûrement un changement de génération aussi. Les deux vont là où ça fait mal. Je veux dire, là où on sait qu'on a de plus d'opposants, ils vont là.
Par exemple.
Parler avec ceux qui travaillent dans le charbon. Il y a quelques années, on aurait dit « mais ce sont tous des fous, on n'y va pas », etc. Du coup, ça, c'est aussi un changement de méthode.
Les Verts allemands gouvernent aujourd'hui en coalition dans 9 régions au total, travaillant avec toutes les forces politiques, sauf l'extrême droite, bien sûr, qui ne gouverne pas. Et dans les campagnes que les écologistes mènent, ils disent avoir une recette, ne pas contrer les arguments de leurs adversaires, mais rester, comme ils disent, positifs, constructifs et toujours sur leur sujet, pas ceux des autres.
Pieds tenus pour le reportage en Allemagne. Moi, je trouve ça assez fascinant ce qui est en train de se passer en Allemagne en ce moment. Thaïs Bermann, on a l'impression qu'on est dans la réponse à un gouvernement fatigué, au fond. Ça peut être aussi cette voie-là. Je vous pose la question parce qu'on l'évoquait en première heure, les élections provinciales hier ont fait multiplier par 2 les sièges des Verts ici. On est passé de 4 à 8.
Oui.
Malgré tout.
Et évidemment, avec les nouvelles inquiétantes du changement de climat, les Verts trouvent leurs électeurs plus facilement qu'il y a 20 ans ou 30 ans, quand ils en parlaient déjà aussi, faut bien l'admettre. Ils ont aussi cet avantage-là qui a été décrit dans le reportage. Ils parlent de façon positive de ce qu'ils veulent, et au lieu de s'opposer de façon négative et agressive contre le gouvernement, et c'est le grand défi de tous les politiques, d'attirer... Comment dire, de charmer, si vous voulez, d'attirer les électeurs. Et ils ont raison.
Mais est-ce qu'il y a une riposte verte? Est-ce que vous diriez qu'il peut y avoir dans vos pays, ici, on est voisins de l'Allemagne, vous y allez, j'imagine, enfin, des allers-retours entre ces deux pays existent. Est-ce qu'il y a une riposte verte? Est-ce que vous le diriez comme ça ou pas?
La problématique du climat ou des ressources naturelles ou de la préservation de la nature se pose à tout le monde, de droite ou de gauche. Donc c'est un choix politique qu'il faut faire aussi sur l'inégalité, les inégalités, sur la forme de que la démocratie devra prendre sur évidemment les ressources naturelles, la division aussi des richesses avec les pays en développement. Il y a énormément de questions qui ne se poseront pas seulement en termes de durable, en termes de vert. C'est aussi une couleur qu'il faut choisir. Et là, il y a quand même débat à faire aussi sur le plan européen.
Et la question, je la posais Tanguy Le Breton aussi parce que on l'évoquait un peu tout à l'heure dans les discours de Thierry Baudet, donc populiste, qui devient une force très importante dans ce pays depuis hier. Il y a aussi un discours climato-sceptique. Donc est-ce qu'on est dans deux forces politiques aujourd'hui qui s'affrontent là sur un vrai sujet de fond et des vrais arguments de fond autour du climat ou pas?
Oui, parce qu'effectivement, ça touche le porte-monnaie, comme je le disais tout à l'heure. En fait, j'ai regardé dans la journée le site internet de Thierry Baudet et je n'ai pas vu en fait d'argumentation ou de volonté ou d'un projet particulier sur le plan en fait du climat. Tout simplement, c'est
son expression,
c'est en fait voilà, ce n'est pas une priorité. Mmh. Donc c'est ça en fait sa priorité. Donc là, il y a une opposition, c'est vrai. Mais pour reprendre aussi votre question tout à l'heure sur est-ce que les Verts représentent en Allemagne, mais aussi peut-être aux Pays-Bas une riposte ou une alternative.
Je pense que les choses sont à prendre, on va dire.
Voilà, c'est peut-être plus positif dans ce sens-là. Les Verts sont évidemment une force politique partout aujourd'hui et dans ces pays, Allemagne, Pays-Bas, ils sont une contribution qu'on prend ou qu'on prend pas. Et je crois qu'il y a déjà on a vu durant les débats par rapport à la journée électorale d'hier, déjà durant les débats électoraux, ils se lançaient des perches. Donc l'ambiance est différente sur le plan politique. Ici, on pense à l'après-élection et on pense toujours à ce qu'on va pouvoir construire avec l'autre. Donc les argumentations seront beaucoup moins difficiles dans les débats. On pense toujours à l'autre en tant que possible partenaire.
Et donc, le fameux consensus qui existait aussi dans les entreprises, qui existe donc aussi toujours dans les partis politiques. Donc rien n'est perdu.
Tout à fait. Et là, le Premier ministre a clairement indiqué qu'il va falloir réfléchir à de nouvelles majorités par projet. Et GroenLinks aux Pays-Bas est un de ses partenaires sur lesquels il faudra compter.
Donc, je ne connais plus de problèmes qui sont purement nationaux. Mm-hmm. Tous les grands problèmes de notre temps sont par nature internationaux, globaux. Donc va falloir coopérer avec d'autres pays. Cette construction européenne a un sens si on veut sauver le climat, sauver la nature, parler de la migration, parler de la sécurité. C'est tous des questions, toutes des questions internationales.
Puisqu'on est dans cette thématique, on va y rester. Je voudrais qu'on pousse même le curseur un peu plus loin en allant visiter un troisième pays. Nous allons en Suède. On est un peu là dans une conscience écolo qui va beaucoup plus loin, qui existe plus dans ces pays du nord de l'Europe peut-être que chez nous. Alors en Suède, en ce moment, il y a le visage de Greta Thunberg, évidemment, mais pas seulement. On est dans un pays qui veut normalement se débarrasser de l'énergie fossile en 2045. Ce sera en 2040 pour Stockholm. Donc c'est extrêmement ambitieux. Je vais vous y emmener. Voilà à quoi ça ressemble au quotidien. C'est un reportage signé Audrey Tison.
C'est en tramway que nous rejoignons ce qui a été le tout premier éco-quartier en Europe. Zone industrielle il y a encore 40 ans, Hammarby est maintenant recouvert de centaines de petits immeubles abritant logements et bureaux à proximité des méandres de la mer Baltique. Des espaces verts et des canaux ont été aménagés. Eva Nielsen habite ici depuis 16 ans.
Moi, j'ai vraiment une bonne qualité de vie. Je peux marcher jusqu'au centre-ville et c'est proche aussi de la nature. Ici, c'est très sympa.
Cette mère de famille se déplace à pied, en transport en commun, si besoin en voiture électrique partagée. Il y en a toute une rangée garée devant son immeuble. Eva nous emmène maintenant chez elle. Quand on entre en doudoune dans cet appartement ultra isolé, on prend une bouffée de chaleur. Eva contrôle immédiatement la température grâce à un petit boîtier blanc fixé dans le mur.
C'est un détecteur d'énergie qui mesure la température et l'humidité. Et je peux y accéder par mon téléphone portable. Ça me dit qu'il fait 23 degrés, que c'est un peu élevé, et ça me donne des conseils sur ce que je peux faire. Sur la dernière année, on a économisé 86 000 kilos de CO2 en partageant ces données. En fait, ça permet à la compagnie, s'il va faire super froid dans deux jours, de planifier la manière de réchauffer les bâtiments.
L'écologie aussi dans la cuisine avec sa gazinière.
Elle fonctionne au gaz bio. Il y a une expression suédoise qui dit « ça vient des toilettes jusqu'à l'omelette ». Ça fait rire les enfants. Parce que tout ce qui vient de la salle de bain, tous les déchets organiques qu'on crée dans la ville peuvent être valorisés, réutilisés.
Même principe pour les restes alimentaires, transformés en gaz. Pour cela, les habitants sont invités à trier au maximum leurs déchets et à les déposer dans l'immense local à poubelle de l'immeuble. Plus de 15 bacs différents à disposition, plastique, verre transparent, verre coloré, métal, presque rien n'échappe au recyclage. Eva et ses voisins d'immeuble sont d'ailleurs parmi les meilleurs trieurs du quartier. Et la gestion des déchets a encore évolué dans les bâtiments construits ces dernières années. Désormais, les matériaux les plus courants sont déposés dans des poubelles en forme de cheminée.
Ces déchets sont aspirés dans des tuyaux souterrains. Ça arrive dans des grands containers pour 7000 logements. Ainsi, vous n'avez plus de camions qui circulent dans les rues pour collecter les ordures.
Ces explications, c'est Stéphane Lorenz qui nous les donne. Employé par la ville, il coordonne la construction du nouvel écoquartier Royal Seaport autour du principal port de Stockholm. « 47 000 nouveaux logements et bureaux en cours de construction. On réhabilite aussi les vieux bâtiments en briques rouges pour créer le premier quartier entièrement durable et intelligent d'Europe. Propriétaire des terrains, la municipalité se montre encore plus exigeante envers les constructeurs privés. »
On est en train de construire des immeubles qui produisent plus d'énergie que ce qu'ils consomment. Mais on doit faire attention à comment on calcule les choses. Ils sont coûteux à construire, les murs sont épais, on a des fenêtres spéciales, des toits spéciaux, etc. Donc on met beaucoup de matériel pour économiser ensuite de l'énergie.
Pour atteindre ses objectifs, la capitale suédoise a aussi décidé d'innover dans sa gestion des déchets verts issus des parcs et jardins. Bien plus que du compost, c'est une sorte de charbon bio qui est produit dans une usine pilote mise au point par l'agence de gestion des déchets où travaille Jonas Dalleuf.
Ici, nous sommes devant le premier aspirateur à carbone urbain. Quand les déchets verts déchiquetés rentrent dans la machine, ils restent dans le système de pyrolyse pendant une vingtaine de minutes avant de devenir du biochar. On utilise ce produit comme fertilisant pour planter des arbres, par exemple. Il reste dans le sol pendant des centaines, voire des milliers d'années, pendant lesquelles il aide la plante à pousser. Ça agit donc comme un puits de carbone. Par ailleurs, la chaleur produite dans le processus de fabrication est utilisée dans le réseau de chaleur urbain afin de chauffer des logements. Et ce deuxième processus a aussi une production de CO2 négative.
Tout cela permet d'absorber l'équivalent de ce que rejettent 700 voitures par an. Ce pourrait être 6 fois plus si la ville de Stockholm décidait de transformer ainsi l'ensemble des déchets verts issus de ses parcs et jardins.
Audrey Tison qui signe ce reportage à Stockholm. C'est vers vous que je me tourne, Isabelle Labéry. Quand on entend ce reportage en Suède, les efforts monumentaux qui sont faits, c'est vrai, mais derrière une volonté politique pareille, il faut beaucoup d'argent, non, aussi.
Oui, et puis ce n'est un secret pour personne. Le système d'imposition en Suède est plutôt agressif. Vous savez que les taux de prélèvement obligatoire varient de 37 à 57% du revenu, selon les tranches, avec retenue à la source. Un autre exemple, la TVA sur les biens et services est à 25%. Et tout le monde paye un impôt pour ses obsèques aussi. La contrepartie, c'est que le pays est devenu l'exemple le plus vertueux qui soit d'État-providence. C'est le fameux modèle suédois, garant du plein emploi, d'un salaire égal pour un travail égal et du bien-être collectif de la société. La Suède dépense plus en services sociaux que tout autre pays au monde. Modèle certes un peu ébranlé par la crise migratoire, mais modèle que l'Union européenne met régulièrement en avant malgré tout.
Ouais, sauf que la Suède a aussi une relation compliquée avec l'Europe.
Oui, on le sait bien, la Suède a longtemps choisi de rester en dehors de la construction européenne. Elle n'a pas voulu rejoindre l'euro. Le sentiment d'appartenance à l'Union n'est pas très très développé. Et la Suède se retrouve régulièrement en opposition avec Bruxelles. Et la dernière passe d'armes, c'est sur les GAFA. Ça peut paraître paradoxal, mais la Suède ne veut pas entendre parler d'une taxation des géants du numérique. Position qu'elle partage d'ailleurs avec ses voisins, la Finlande, le Danemark et aussi l'Irlande. Et elle a finalement réussi à empêcher toute évolution sur ce dossier parce que en matière fiscale, il faut évidemment l'unanimité des 28. En fait, elle estime que la fiscalité, c'est un domaine souverain dont l'Union ne doit pas se mêler. Elle a peur évidemment d'éventuelles mesures de rétorsion de la part de Washington, mais surtout, c'est un pays, la Suède, qui abrite un très grand nombre de licornes. Mm-hmm. Non, pas les animaux, Fabienne. Les licornes, c'est les start-up qui sont valorisées à plus $1 milliard. Quelques exemples, Skype, King, le géant du jeu vidéo qui possède Candy Crush, ou Spotify. Et ces start-up se développent beaucoup en dehors de la Suède. Donc, elles sont en lien avec des multinationales américaines. Et elles aussi, eh bien, elles sont capables de vraiment faire pression sur le gouvernement pour que les réglementations leur soient tout à fait favorables.
Merci beaucoup, Isabelle. Thijs Berman, tiens, puisqu'on est un peu dans ces sujets de haute finance, de grande finance, il y a quelque chose qui vous colobasque, vous ici, aux Pays-Bas, qui n'est pas sans lien avec ce que disait Isabelle à l'instant, c'est paradis fiscal ou pas paradis fiscal. Est-ce qu'on joue pas le jeu, donc, du coup, avec nos voisins européens? On nous dit qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Est-ce qu'il y a vraiment des efforts qui ont été faits du côté des Pays-Bas pour changer cette image?
C'est une question très méchante, enfin.
Oui, c'est vrai. Je vous en prie, allez-y.
Vous savez, les Pays-Bas sont parmi les paradis fiscaux qui ne veulent pas le dire.
Oui, qui ne disent pas son nom, bien sûr.
Qui ne disent pas leur nom. Mais vous savez que EADS, le constructeur d'Airbus, Renault-Nissan, sont établis à Amsterdam. Et ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la bouillabaisse. Hein, c'est parce que il y a des avantages fiscaux, clairement. Et c'est pas la seule. Il y a quelques années, 19 des 20 plus grandes entreprises portugaises étaient établies à Amsterdam aussi. Donc, il y a une concurrence fiscale entre les pays membres de l'Union européenne qui fait un nivellement vers le bas de la taxation, évidemment. Au final, ça coûte quand même à la qualité du service public. C'est une concurrence néfaste, en fait, pour la qualité de nos services. Il faudrait arrêter ça. Les Pays-Bas ont promis de changer. En 2020, ça changera. Voilà. Mais ils cherchent quand même encore des sorties.
Voilà. Concrètement, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est une réalité, Tanguy Le Breton? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Ou est-ce qu'on est en train de... Pardon, on a cette expression, nous, en France, de promener le chien?
Non, on reproche souvent cela aux Pays-Bas, donc ça doit être en partie réel, mais ils en sont aussi conscients. Ils sont sensibles évidemment aux arguments des voisins européens qui leur font des remontrances sur cette question-là, donc je pense qu'ils sont en train de changer. Mais bon, la fiscalité, c'est un domaine important aux Pays-Bas, ça touche à l'argent. L'argent est une valeur très importante chez les Néerlandais, donc ils regardent...
On se dépêche lentement.
Voilà.
Doucement le matin, pas vite le soir, c'est ça l'idée.
Non, mais donc c'est un sujet sensible, mais sur lequel je crois qu'ils sont assez ouverts à la discussion. Mais dans le cadre européen, il y a d'autres discussions, notamment sur le plan monétaire. Donc ils vont être extrêmement regardants sur justement les évolutions possibles à l'avenir dans le cadre européen.
Allez, ce tour d'Europe du Nord, il n'est pas fini. Il va nous emmener en Estonie tout à l'heure. Voici Big Bassi sur France Inter. Le titre s'appelle Woni.
Ngeli kere wongi Urben balele ni munu wongi Sogolwe mabine ngeli kere wongi Loyem bine ngeli kere wongi Ngeni yesri yibe yo Basori nigil ni beyo Loyes biwele ni kere wongi Onge ba biwele ni munu wongi Loyesi ho Inyonyo ninyo Loyesi ho Iho ni mao Loyes minengeli kere wongi Papire din chomo kikipitong bimo Inge mwemo kibiperne ni munu wongi Your baby will ni biski wongi Ha tang on em le long Engeni yo ki wo Mumye abi will ni biski wongi Ni bispana din kirne ni kere wongi Elon
Blik Bassi, avec nous à Maastricht dans la librairie magique et gothique.
En direct de Maastricht, édition spéciale européenne sur France Inter.
Allez, il y a un autre sujet que je voudrais qu'on aborde avant de se séparer. L'heure tourne, le voyage tous un petit peu à sa fin. C'est la défense européenne qui est quand même un gros morceau qu'on regarde avec des yeux particuliers quand on est ici. Et quand on est même un peu plus haut, c'est en Estonie que je veux que nous allions quand on est un peu plus haut. Parce que ça veut dire que les frontières qu'on regarde sont peut-être un petit peu différentes. Et entre l'Europe et entre l'OTAN, on va dire, les débats sont là. Isabelle Labéry, pour comprendre, je voudrais que vous nous racontiez l'Estonie. Tout simplement, d'abord, carte postale. Ça pèse quoi, ce petit pays de là-haut ?
Alors, ça pèse pas très lourd, hein. Vous le disiez, l'Estonie, c'est un confetti. 1 300 000 habitants seulement au bord de la Baltique, qui n'a que 6 députés au Parlement européen. C'est le plus petit contingent possible. Le paradoxe, eh bien, c'est que c'est le pays qui touche le plus d'aide de la part de Bruxelles, en tout cas rapporté au nombre d'habitants. Pour la période 2014-2020, ces aides représentent 480 euros par personne et par an. Et pour mémoire, aux Pays-Bas où on est là aujourd'hui, c'est 16 euros par habitant et par an. Donc cet argent, il a surtout servi à développer les infrastructures de transport. Mais voilà, en valeur absolue, les montants restent très faibles. C'est logiquement l'un des États qui contribue le moins au budget européen et qui reçoit le moins. Il y a quand même eu une vraie modernisation de son économie. Au début des années 2000, l'Estonie, c'était le tigre de la Baltique, taux de croissance jusqu'à 11%. Hélas, ensuite, le pays a été touché par la crise de 2008. Sa crainte aujourd'hui, c'est d'être un petit peu en retard et de rester dans la catégorie intermédiaire où elle plafonne et de ne pas exactement rattraper le niveau des pays de la zone euro.
Avec une vraie particularité, Isabelle, c'est un pays qui a voulu devenir une start-up nation et qui a réussi, vraiment.
Oui, il lui a fallu une dizaine d'années pour devenir le laboratoire mondial de l'économie numérique. La transformation a commencé par les services publics. 99% des démarches administratives sont dématérialisées, donc tout se fait par Internet. Mais surtout, alors elle a inventé un truc. En 2014, elle est devenue le premier pays au monde à créer une e-résidence, une espèce de citoyenneté estonienne virtuelle. Quelques clics, une centaine d'euros, on vous envoie à domicile une petite carte à puce avec laquelle vous pouvez tout faire. Virement bancaire, signer électroniquement des documents officiels, une belle idée marketing pour attirer les investisseurs étrangers et faire entrer de l'argent, parce qu'avec cette carte, vous pouvez surtout créer des entreprises de droit local qui vous permettent de profiter d'une fiscalité hyper compétitive. Il y a aujourd'hui environ 40 000 e-estoniens qui en réalité sont finlandais, américains ou russes. Et bien, il y a 2 ans, leur nombre a même dépassé celui des naissances dans le pays.
Bah dites-moi, Thaïs Bierman, je ne veux pas vous faire sortir de votre zone de confort, mais est-ce que ça fait envie, en fait, un système numérique aussi développé que l'Estonie ? Est-ce qu'on se dit, il faudra tous qu'on tende vers là, en fait, nous, tout le monde ?
Aux Pays-Bas, on a ça un tout petit peu. Je suis bien content de pouvoir régler tant de choses en digital avec les services de la ville d'Amsterdam, avec les impôts, avec plein de... Pour ma retraite aussi, tout se fait en digital maintenant. Et c'est très pratique parce que tu fais les choses chez toi. Tu n'as pas besoin d'attendre dans une file.
On a bien compris au Pays-Bas que vous aimez bien faire les choses chez vous, en fait.
Oui, mais on laisse les rideaux ouverts comme tout ça. Alors, comme ça, tout le monde peut regarder.
Vous n'aimez pas les gens, en fait. Allez, il y a un autre problème avec l'Estonie, en tout cas une autre préoccupation qui nous intéresse grandement et qui touche évidemment tous ces Pays-Bas, c'est la frontière, la proximité avec d'autres, en l'occurrence avec les Russes. Donc ce mélange entre beaucoup de numérique, une cybercriminalité qu'il faut regarder très très près et la proximité russe, ça fait beaucoup de choses à la fois que nous résume Eric Biegala.
Tallinn sur la mer Baltique, capitale de la petite Estonie, 1 300 000 habitants. Au nord, à 80 km, la Finlande, sa capitale Helsinki. À l'est, la Russie et Saint-Pétersbourg, à environ 300 km. L'Estonie est l'un des rares pays de l'Union européenne à avoir une frontière avec la Russie. Et sa plus grande crainte reste de se voir repasser un jour dans le giron russe. Sven Sarkov est le directeur du Centre international estonien pour la défense et la sécurité.
Ça fait des siècles que ça dure. Ma propre ville natale, Tartu, dans le sud de l'Estonie, a été une première fois détruite par la Russie kievienne en 1030 et ça s'est répété au cours de l'histoire au moins 7 fois.
Pour les Estoniens, en effet, la menace russe est immédiate et parfaitement réelle. Et toute l'Europe devrait se sentir concernée, estime-t-il. même si les pays baltes sont pour ainsi dire aux premières loges.
Depuis 2008 et surtout 2014, tout ce que nous pensions pouvoir considérer comme un acquis de la sécurité européenne a été remis en question. 2008, c'est l'agression russe contre la Géorgie. 2014, l'agression contre l'Ukraine qui se poursuit toujours. En 2016, c'est l'ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Et en 2018, il y a eu l'emploi d'armes chimiques sur le territoire d'un pays européen avec l'attaque de Salisbury. En fait, si on se réfère au récent rapport de notre service de renseignement, la Fédération de Russie identifie les pays baltes comme la partie la plus vulnérable de l'OTAN, alors qu'elle-même est particulièrement puissante dans cette région. Donc un conflit avec l'OTAN pourrait bien se dérouler ailleurs. C'est bien ici que la Russie portera ses coups.
Et des coups, la Russie en a déjà lancé contre l'Estonie. Le petit pays est probablement l'un des mieux numérisés du monde. Ici, tout est accessible en ligne. Les attaques russes ont donc porté sur cette facette de l'identité estonienne, le numérique. Et c'est aussi ce pourquoi l'Estonie accueille aujourd'hui le centre de cyberdéfense de l'OTAN. Kadri Gaska en est l'une des animatrices.
La première proposition de l'Estonie d'établir sur son sol un centre de cyberdéfense n'avait pas rencontré un franc succès jusqu'à ce qu'en 2007, nous nous retrouvions nous-mêmes, en tant que pays, victimes d'une attaque massive.
Tout était parti à l'époque d'une histoire de statue.
Oui, toute cette pagaille a été causée par le déplacement d'une statue à la gloire du soldat soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des manifestations en ville et très vite, ça a débordé dans le cyberespace. Et puis, ça enflé avec des appels et des instructions données en ligne pour attaquer tous les sites du gouvernement estonien, les banques, tout ce qui était en ligne. Et la plupart de nos sites web n'étaient pas prêts à faire face. Ils se sont retrouvés déconnectés les uns après les autres. Toutes ces attaques se sont prolongées pendant 3 semaines.
Quelques mois plus tard, le centre de cyberdéfense de l'OTAN a été créé à Tallinn. À la fois think tank et centre de ressources, il organise aussi des manœuvres informatiques et analyse scrupuleusement les attaques numériques lancées ici ou là. Par exemple, celle de 2007 contre l'Estonie. Le commandant Stéphane est l'un des officiers français affectés au centre de cyberdéfense de Tallinn.
L'attaque la plus simple, je dirais, c'est de saturer un site internet avec un déni de distribution de services. Vous allez saturer le site.
Il s'agit tout simplement de le bombarder de demandes ou de
commandes. Ce sont des robots qui vont essayer de se connecter à votre site et votre site est saturé.
Ce type d'attaque, c'est exactement ce que l'Estonie a connu en 2007. Mais il y en a d'autres, comme celle qui a paralysé l'Ukraine en décembre 2015.
Vous avez des attaques plus complexes, des virus implantés dans des systèmes industriels ou dans des ordinateurs. Ils ont eu cette attaque juste après Noël, ils ont eu une coupure d'électricité en Ukraine.
Sur tout le pays.
Pratiquement tout le pays, oui. Et plus d'électricité, donc bien sûr l'impact est beaucoup plus grand parce que c'est en hiver, les gens ont besoin d'électricité.
Sur le principe, les attaques informatiques ne diffèrent pas fondamentalement des attaques classiques, même si jusqu'à présent, elles n'ont pas fait de mort. Reste que le centre de cyberdéfense de Tallinn entend bien également les dénoncer, et ce, en vertu du droit de la guerre, explique Kadri Gaska.
Dès le début, on a insisté. La cyberdéfense, ce n'est pas qu'une histoire de technique. La manière dont les États agissent dans le cyberespace obéit à des règles que les nations sont censées suivre. On ne vise pas les infrastructures civiles dans une guerre, par exemple. Ces règles s'appliquent aussi au cyberespace.
En d'autres termes, on ne s'attaque pas au réseau d'électricité d'un pays, par exemple.
Ni aux infrastructures civiles, ni aux hôpitaux, ni au réseau électrique d'un pays, ou à son système informatique médical.
Et ces attaques pourraient être considérées comme autant de crimes de guerre ?
Oui, parfaitement. En fait, peu importe les moyens utilisés.
En clair, au même titre que les bombardements chimiques ou ceux visant des civils en Syrie, les attaques informatiques, très probablement russes, visant l'Ukraine, pourraient parfaitement se retrouver un jour poursuivies comme crimes de guerre au tribunal de La Haye.
Ce qui nous ramène chez nous, ici, pas très loin d'ici, à La Haye. Est-ce qu'on a une réponse européenne réellement pour rassurer des pays comme l'Estonie, un pays comme l'Estonie, pour les aider et comprendre effectivement, parce que cette crainte, on la comprend, oui, mais est-ce qu'on a vraiment une réponse européenne pour eux ?
Le problème, c'est que pour un pays comme les Pays-Bas, qui a toujours été très atlantiste, tourné vers les États-Unis, vers la Grande-Bretagne et donc l'OTAN, on se rend compte que la Grande-Bretagne n'est plus là et que les États-Unis ne sont pas aussi fiables qu'avant. Donc il va falloir se tourner vers l'Europe sans qu'il y ait quelque chose d'européen à proprement dit de défense. Et
mais pour l'instant, vous avez dit non quand même.
Et on a dit non contre cette défense européenne parce qu'on a les structures de l'OTAN qui sont extrêmement chères et bien organisées. Donc pourquoi les remplacer par quelque chose d'européen qui n'existe pas encore? On n'aurait pas de défense du tout. Donc il vaut mieux, pour les Pays-Bas, il vaut mieux retravailler dans l'OTAN pour la faire marcher. Mais il est clair qu'il y a une menace et que ce n'est pas facile de s'en sortir, ni avec les cyberattaques, ni avec la désinformation, la manipulation de l'information, comme on dit en France.
Et du coup, je répète un peu ma question, Tanguy Le Breton, on sent bien, effectivement, on le dit et on l'entend, oui, les Américains sont moins présents aujourd'hui, oui, la menace, pour le coup, elle, est bien présente, l'idée d'une défense européenne qui est amenée par Emmanuel Macron, qui a été approuvée par les voisins allemands, mais on sait effectivement que politiquement, en ce moment, Angela Merkel n'est pas celle qui a le plus de poids. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut y venir, qu'on y viendra, qu'elle peut se matérialiser réellement, ou dans un pays ici comme les Pays-Bas, de toute façon le non sera toujours un non?
Non, pas forcément. Je pense qu'il faut regarder les choses en face, et je pense que les Néerlandais sont prêts à les voir. Il faut aussi dire, la France elle-même fait beaucoup de choses sur le plan de la défense. C'est une grande puissance militaire. Elle a la dissuasion nucléaire, ce que les autres n'ont pas en Europe d'ailleurs, avec la sortie de la Grande-Bretagne, c'est clair. Donc il faut simplement, et c'est pour ça que le président Macron l'a exprimé et va dans cette direction-là. La défense, c'est pas seulement l'affaire de la France. La France fait beaucoup à l'extérieur, en fait, de l'Europe pour un certain nombre de choses. Et l'évidence de la sécurité au niveau européen s'impose. Et donc, je pense que les Néerlandais, à ce moment-là, seront prêts à y participer. Mais il faut mettre les choses sur la table avec des financements, etc. Et donc, moi, je suis pas du tout inquiet. Je pense que c'est une question qui est fédérale. Je pense que c'est une question qui concerne l'Europe et que sur ces questions-là, les Néerlandais seront les premiers intéressés aussi.
Allez, il nous reste une minute avant de quitter Maastricht. Allez pour vous, Thijs Berman, vous êtes l'ancien député européen de la troupe aujourd'hui. Je voudrais que vous nous donniez une idée de la projection que vous voyez, vous, dans ce Parlement européen pour lequel on votera tous au mois de mai. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Avez-vous une crainte qu'il se reproduise ce qui s'est passé chez vous hier avec une vraie grande poussée populiste? Comment vous le voyez, vous, ce Parlement à venir?
Non, je pense que la grande majorité des Européens est convaincue qu'il faut coopérer pour résoudre nos grands défis qui se posent devant nous, et qu'il y a évidemment du rejet de la politique, disons, arrogante, vieux jeu, 19e siècle, et ça à juste titre. Il faut vaincre ces atavismes dans la politique des partis modérés, ça c'est important.
Allez, laissez-nous finir donc sur cette note positive. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à tous, grand merci à Ton Hermès qui nous a prêté sa librairie magique et gothique, donc dans laquelle nous sommes depuis tout à l'heure. Merci à Norbert Bonnenkamp qui est le président de l'Alliance française, qui nous a amené d'ailleurs jusqu'ici. Merci à Jérémy Thuil et à Aurélien Gilles pour toute la technique, l'organisation, les réseaux sociaux. C'est Fabrice Lègle qui réalise cette émission, c'est Amélie Stadelman qui l'a préparé avec nous, c'est Nathalie Poitvin qui a veillé à ce que tout se passe très bien depuis Paris. Merci à vous aussi, Isabelle Labéry. Le 18-20 trotteur à travers l'Europe, ça continue le mois prochain. Nous serons en Italie. Bonne soirée et portez-vous bien.